Amis de la poésie et de Radio Occitanie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous avons la joie de retrouver aujourd'hui dans ce studio de la rue d'Assali, Gérard Zucchetto. Gérard, bonjour.
Bonjour,
merci
bonjour.
Beaucoup d'être revenu dans ce studio que tu connais bien, puisque tu as animé pendant longtemps donc des émissions ici à Radio Occitane sur le Trouba, dont tu nous parleras. Et Gérard, qui est venu la dernière fois pour présenter ses ouvrages, et qui revient pour présenter encore un ouvrage. Alors on va d'abord parler un peu de Gérard Zucchetto. D'abord pour dire que cette semaine, nous allons présenter de Gérard Zucchetto un très beau livre, un grand livre. Je ne sais pas si on peut le voir sur les heureux élus qui peuvent le regarder sur YouTube, je pense. Il s'agit d'un véritable livre d'artiste, un grand format. C'est un grand format. Jean-Luc Sévérac, Gérard Zucchetto, Entals, Gravure, Entre Becs et Kensunt, Entre Lacs et Chansons, Trobas, c'est-à-dire des poèmes de Gérard Zucchetto sur des gravures de Jean-Luc Sévérac, le tout publié aux éditions Trovavox, qui sont les éditions également animées par Gérard Zucchetto. Et ce très très beau volume constitue le numéro 12 de la collection de la poésie occitane. Voilà. Alors, ce qu'il y a de très significatif dans ce très beau livre qui est, je pense, moi je le considère comme un véritable livre d'artiste, c'est la correspondance dans, je dirais, à la fois le génie de la gravure et le génie de la langue. Voilà. Et cette correspondance est absolument éblouissante et fait de ce livre certainement un des livres qui m'a le plus réjoui de ces derniers mois, vraiment. Et cette collection de la poésie occitane s'enrichit encore d'un volume qui fait que vraiment on peut dire que ces éditions Trovavox portent la poésie occitane à son plus haut niveau, c'est-à-dire ce qu'elle est vraiment, révèle une richesse de création et une puissance de création qui me semble vraiment un peu vertigineuse. Voilà, on a Franck Bardou, on en parlera tout à l'heure, parce que Gérard Zucchetto, c'est le grand spécialiste du troubard, donc de toute la culture des troubadours, à la fois sur le plan de la musicologie, tout ce qui est musique des troubadours, mais également sur la langue. C'est un linguiste donc qui a réussi à faire à la fois cet enjambement de la musique et de la langue qui a porté effectivement le poème à cette époque-là à son niveau d'incandescence. Voilà. Et ce niveau d'incandescence que nous devons aux troubadours dans le 12e, 13e siècle, eh bien, quand on lit les livres de Trovavox dans la poésie occitane, on se dit qu'on y est toujours. Les cendres sont vraiment rallumées et on est toujours dans les flammes. Alors, ces flammes, ça peut être aussi les flammes de Minerve. Les flammes de Minerve, parce que Jean-Luc Sévérac, qui est l'auteur donc de ces gravures magnifiques qui sont sur ce livre « Entre lacs et chansons », vit à Minerve. Minerve, c'est un lieu historique pour tout ce qui est ce qui s'intéresse à l'histoire cathare, où le fameux on a Montségur, mais il y a eu Béziers, il y a eu Minerve, avec 150 cathares à peu près, c'est ça, qui ont été cramates, brûlés dans à la suite de la
au bûcher de
Minerve. Voilà. Et Jean-Luc Sévérac est celui qui a créé cette colombe qui apparaît dans le vide d'un menhir comme ça, que tout le monde connaît, parce que bon, tous ceux qui vont à Minerve maintenant ne peuvent pas passer à côté de cette de colombe.
Et même ceux qui n'y vont pas.
Oui, ceux qui n'y vont pas. Ils voient les photographies qui ont fait fureur, hein, de ces photographies de Jean-Luc Sévérat, de la colombe de Jean-Luc Sévérat, qui est créée dans le vide et qui fait apparaître, bien sûr, le ciel. Hein, et, voilà, c'est un symbole magnifique. Alors, je disais, Jean-Luc Sévérac vit à Minerve, et il va y avoir, bien sûr, dans le texte donc de ses poèmes Entre lacs et chansons, hein, Entre becs et canzons, il va y avoir des références au Qatar. Hein, dans les derniers textes, par exemple, vers les Qatars. Alors, ce livre, il se présente de la façon suivante. Il y a les gravures, et si tu veux bien, Gérard, tu nous diras quelques mots sur la façon très originale dont ont été fabriquées ces gravures, puisque c'est un procédé qui est unique, qui a été mis en place, créé, inventé par l'artiste, hein, Jean-Luc Sévérac, et qui est le seul à avoir fait ça, et qui donne effectivement un résultat qui est d'une originalité totale et d'une puissance, comme je disais tout à l'heure, qui est assez phénoménale. Voilà. Alors il y a là une correspondance entre les textes de Gérard Zucchetto, les poèmes, hein, de Gérard Zucchetto et les gravures. Tu vas nous expliquer comment s'est fait ce mariage heureux, pour ne pas dire quelquefois une véritable fusion où on peut passer de la gravure au texte comme si c'était la même chose, un peu, une espèce de fusion, ce qui est très rare, hein, ce qui est très rare en définitive.
Oui, et ce qui est très rare, c'est le procédé que nous avons employé. Alors, je dois préciser que je connais Jean-Luc Sévérac depuis 1970, que j'ai habité Minerve, que Jean-Luc Sévérac est un ami vraiment très important, qui est un artiste très important également. C'est un sculpteur, un dessinateur, un graveur. Et il a, dans sa vie, eu ce rêve éveillé de celui qui marche à la recherche d'inspiration pour ces sculptures, qui arrivent au-dessus de Minerve, là, sur le Bouis, et qui s'arrête et qui dit « c'est là que je vais habiter ». Et quand on se promène autour de Minerve, on voit des sculptures partout. C'est-à-dire, depuis les années 70, Jean-Luc Sévérac habite à Minerve. Il sculpte le bois, la pierre. Il fait des gravures, évidemment. Il peint. Et c'est un artiste qui a beaucoup d'œuvres dans des musées, un petit peu partout dans le monde. L'originalité, c'est que c'est un vrai artiste dont la conscience occitane est enracinée dans cette terre minervoise. Et donc, il n'était pas question pour moi de demander à mon ami Jean-Luc d'illustrer mes poèmes, mais d'aller dans l'autre sens. C'est-à-dire, nous avons choisi ensemble des gravures, et puis j'ai écrit dessus. Nous avons fait le procédé inverse de ce qui se pratique habituellement. Et moi, ça m'a intéressé parce que c'était un exercice intellectuel très troubadouresque. Je veux dire par là que pourquoi ça s'appelle Entre becs et canzons? Parce que dans les textes que j'ai écrits, il y a des textes qui sont des textes pour être chantés, mais il y a des textes qui ne sont pas pour être chantés, qui sont dans une démarche comme le troubadour des troubadours, de recherche formelle. On travaille sur la forme, sur les mots, sur même le médiévalisme, comme disent les Anglais, c'est-à-dire qu'on revient aux sources premières de la langue pour en faire une adaptation personnelle. On retrouve ça, ce n'est pas très original, hein, on retrouve ça dans la poésie de René Nelly qui, dans une poésie contemporaine, je pense surtout à l'Aude à Montségur, oui, il emploie beaucoup de mots de la langue médiévale. Moi, je ne fais pas tout à fait comme ça, mais je fais quand même comme ça. En même temps, il est très difficile de ne pas utiliser cette langue des troubadours qui est tellement ciselée, tellement intéressante au niveau de la composition, que elle fait partie de notre patrimoine intérieur. Ça dépasse largement le fait de la simple conversation. Quand parlent en occitan à Toulouse, veille, parlent en occitan, mais des formes simples. Ça veut dire on parle en occitan, mais en utilisant la langue courante. Mais déjà, à l'époque des troubadours, la langue courante était très différenciée de la langue écrite. Quand le troubadour Arnaud de Tintignac dit, il s'adresse au clerc, après, à la fin d'une chanson, il dit, la chanson est parfaite, mets-la en écriture, mets-la en écriture, ça veut dire qu'il est conscient que si on la met en écriture, c'est pour que cette langue s'inscrivent dans la durée et les siècles suivants. La preuve aujourd'hui, c'est qu'on s'intéresse au troubadour et il n'y a rien à changer, pas une virgule, pas un iota, un poème. Et avec Jean-Luc Sévérac, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'une gravure, avant d'arriver à la réalisation finale, finalement, c'est un cheminement intellectuel, sensible, tout ce qu'on voudra, et puis technique aussi, là, en l'occurrence. Et quand la gravure est terminée, quand l'impression est terminée, parce qu'avant d'avoir une épreuve définitive, il y a plusieurs, évidemment, et plusieurs essais, plusieurs autres propositions, eh bien, celui qui va écrire dessus est obligé de la prendre telle qu'elle est. Il ne peut pas changer la gravure. Et c'est, en fait, c'est un défi que je me suis lancé là, et puis le confinement a bien aidé à ça, puisque j'y passais quand même plus de 10 heures par jour. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que je peux prendre un exemple. Par exemple, il y a une gravure où je pensais que Jean-Luc avait dessiné un goéland. Et j'étais très inspiré, je ne voyais pas que c'était une bécasse qu'il avait gravée. Et oui, il y a une différence énorme. Mais moi, j'étais complètement obnubilé par le goéland. J'adore les goélands, les gabianes. J'habite à côté de la mer, donc je ne voyais pas la bécasse. Et Jean-Luc qui me dit, tu sais cette bécasse? J'ai dit, ah oui, c'est vrai, c'est une bécasse. Donc, j'ai repris la chose complètement à l'envers. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, tout le monde voit et sait que un gabian, un goéland, ce n'est pas une bécasse. Mais il y a des fois, si vous voulez, où même si l'on veut s'évader et faire une transposition, on ne peut pas parce que justement la gravure ramène à ce qu'elle a voulu dire. Et donc, j'ai écrit un autre texte.
Ça, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, toi, ta créativité t'emportait là, parce que c'est ta sensibilité, c'est ton environnement, hein, c'était le goéland, c'est dans ta tête, quoi, c'est imprégné. Et donc, tu es parti sur ça, et puis, comme tu dis, hop, ça y est, la réalité t'a rattrapé. En fait, et t'as dit non, c'est pas sur ma fantasmagorie à moi qu'il faut travailler, mais sur celle de Jean-Luc Sévérac.
D'autant plus que comme Jean-Luc est chasseur,
ah oui,
et qu'il chasse la bécasse, on ne pouvait pas faire autrement que de parler de bécasse et non pas de goéland. Alors, ça a été un travail vraiment passionnant, hein, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble. On avait travaillé ensemble dans le passé, vraiment. Et donc là, on a passé beaucoup de temps à rire, à boire et à écrire et à dessiner. Donc c'est un travail dans la joie. Alors, je dois ajouter une chose sur le plan technique, c'est que il travaille sur du polystyrène extrudé. Parce que comme il a plus de 80 ans, qu'il a beaucoup sculpté, beaucoup gravé sur la pierre, sur le cuivre, etc., eh bien, il a quelques problèmes d'arthrose, mon ami Jean-Luc. Et, alors, un jour, il s'est dit, je vais essayer ce support pour les photos, le polystyrène extrudé. Il a fait ça, il a vu que ça marchait, et il a continué. Et c'est beaucoup plus facile, hein, parce que quand on grave sur le cuivre, c'est quand même un mouvement de tous les muscles du poignet et de la main très très soutenu. Et là, avec la chose qu'on découpe au cutter, c'est beaucoup plus simple. Et finalement, le résultat est bluffant.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. On peut même dire qu'il n'aurait pas eu ça avec une gravure classique.
Si, parce que moi, il aurait eu avec avec le cuivre, oui, ou le bois même, il aurait eu la même chose, ou la pierre. Mais disons que ça aurait été peut-être beaucoup plus long, et puis de toute façon, maintenant, il ne peut plus. Donc le problème ne se pose pas, mais le résultat n'a rien à envier. Au procédé plus classique. Parce que quand même derrière il y a l'œil de l'artiste, et Jean-Luc là, avec ça il est extrêmement pointilleux, qui fait que il ne fera pas imprimer une gravure si elle n'est pas parfaite, quoi.
Alors, ce qui veut dire que l'ensemble de ces poèmes qui sont rassemblés, il n'y a pas une ligne directrice, en définitive, ou alors tu as trouvé une ligne directrice parmi toutes ces gravures?
Alors là, c'est très compliqué de dire qu'il y a une ligne directrice, parce que on ne s'est pas posé, ni lui ni moi, la question comme ça. Voilà. À savoir qu'il y avait plus de 800 gravures à regarder, et puis on a fonctionné au coup de cœur. Quand on fonctionne au coup de cœur, il peut y avoir un thème, mais là il n'y a pas de thème. Le thème, c'est lui, oui. C'est-à-dire son histoire, d'arriver à Minerve, de s'installer à Minerve, de rencontrer la femme de sa vie, Mimi, à Minerve, de vivre avec elle,
oui, de labourer, de travailler la terre.
Jean-Luc, ce n'est pas un paysan. Sa femme, oui.
Il est devenu par... Il a dû l'être.
Voilà, il est devenu un peu par obligation, mais il n'aimait pas trop ça.
Oui.
Et d'ailleurs, pour gagner sa vie, il a trouvé une subtilité incroyable, c'était d'aller à la rivière, de ramasser des galets, de sculpter les galets, de les vendre aux touristes.
Ah oui.
Et ça lui a rapporté énormément d'argent. Enfin, énormément d'argent, c'est relatif.
Oui,
mais ceci dit, il a des galets qui sont dans les musées. Il a fait des sculptures magnifiques là-dessus. Et juste pour dire que le fil conducteur de ce livre, c'est un petit peu la vie de cet artiste qui habite à Minerve. C'est-à-dire, un des premiers poèmes qui ouvre le livre, c'est la rencontre avec sa femme, à Minerve. Ensuite, le livre est parsemé de son histoire. La Bécasse, comme je viens de dire, c'est un exemple, puisque c'est il chasse. C'est un petit peu pareil pour le poème que j'ai écrit sur le bûcher de Minerve,
oui.
Et puis sur la colombe également. Oui. J'écris un poème sur la colombe, sur l'arbre des colombes, puisque maintenant on l'a très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est devenu un symbole, sa colombe ascendante. Lui, il a dessiné une colombe ascendante, percée dans la pierre de façon à voir le ciel, pour ne pas avoir une référence figurative qu'on a habituellement sur la colombe, celle d'Éluard et les autres.
Oui.
Donc, de Cocteau.
Oui.
Il a choisi un autre regard. Et en fait, c'est ce que suit la trame du livre. Le thème est calqué sur sa vie.
Oui. Alors, ce livre et les poèmes de ce livre, on peut les trouver aussi dans un CD.
Alors, certains poèmes ont
été donc dans un CD qu'on a présenté il y a quelques mois ici, qui est Clamor.
Voilà, Sandra m'a fait l'honneur de prendre des textes et de les mettre en musique. Oui. Elle en a pris quelques-uns. Ce sont des textes qui au départ n'étaient pas prévus pour être chantés, mais ce qu'elle a voulu chanter, elle les a chantés. Ouais. Alors, première musique.
On va l'écouter, Sandra Hurtado Ross, donc dans le premier poème, donc de Gérard Zucchetto. Tu peux nous en dire un mot de ce poème?
La terre is in our cell blau. Alors, c'est un poème qui parle de lui-même. La terre is in our cell blau. Quelin l'espace si subrecao, es l'umirai de luz que sem, emai de luz que sarem. Au cel blau devengu de la terre, après pin viatia strejus, qui fuguet farga sem maniero, esclapado al cel estelus, utopios, e mescresensos casson nubel au cel rajus, per daisa dis un cel deranso, in desesper, e paventus. La terre, c'est un oiseau bleu, qui dans l'espace très profond, et le miroir de ce que nous sommes et aussi de ce que nous serons. Oiseau bleu devenu la terre après un voyage hasardeux qui fut créé sa manière fission dans le ciel étoilé. Utopie et mauvaise croyance chassent le bel oiseau radieux pour laisser dans un ciel d'errance un désespoir épouvantable. C'est, j'espère, ce qui ne nous attend pas.
La terre est un ciel blau, que dans l'espace subrecau, est l'umirai de luz que sem, et amai de luz que sarem. Au cel blau de vendut la terre, après un viatge astrejus, que fuguet fargat sens maniero, esclapado al celeste luz. Utopios e mescredensos, cassan nubel au cel rajus, per daisa dis un cel de ranso, un desesper spaventus.
Donc c'était Sandra Hurtado Ross dans La Terre es un ausel blanc.
Blau.
Oui. J'ai blanc moi. Ah. Voilà. Bon, alors on va peut-être continuer sur cette écouter donc ces poèmes mis en musique. Hein? Avec le prochain, c'est Alep.
Alors ça, c'est un poème qui a une histoire. Jean-Luc Sévérac qui m'a montré cette gravure là, avec un oiseau au milieu d'un champ de ruines.
Oui.
Et il se trouve que en 1989, avec mon ensemble, nous sommes allés chanter les troubadours en Irak, en Syrie, au Liban. Enfin, nous avions fait une petite tournée dans les instituts français au Moyen-Orient et en Syrie, donc à Alep, nous avons passé 3 ou 4 jours. Donc il faut savoir comment c'était Alep. Oui, il y a une citadelle qui ressemblait à la cité de Carcassonne avant Viollet-le-Duc. Et puis, c'est une ville très très ancienne, avec la ville de Samara à côté qui a un minaret extraordinaire, enfin bref. Et nous avons passé un moment hors du temps, je dirais. Un moment hors du temps, déjà, à l'époque, parce que nous étions dans une ville comme si nous étions dans les années 50 aux États-Unis, avec toutes les vieilles Mercury, Chevrolet, etc. Et le consul nous promenait un petit peu partout, dans une de ces vieilles voitures, dont seul le pare-brise était cassé. Parce que dans le souk d'Alep, on trouve des fabricants de la pièce numéro 8 de la boîte de vitesse de la Mercury 58, par exemple, etc. Oui. Et, enfin bref, on a passé un moment complètement hors du temps. Mais en même temps, c'est un temps qui ramène énormément à l'humanisme, vraiment. C'est-à-dire que la chose la plus importante, finalement, quand on va... Enfin, pour moi, à cette époque-là, et à Alep, c'était la rencontre avec les gens. Et je me rappelle de notre guide qui nous montrait l'araméen avec son doigt, tracé sur ses pierres. Il disait, la première poésie, tu vois, elle est là. Et avec son doigt, il traçait sur les pierres les signes de l'araméen, la langue du Christ. Oui, quoi. Oui, oui, oui. Et ça ramène à l'essentiel. Et c'est pour ça que quand j'ai vu les images, comme tout le monde, de Alep détruite, il y a finalement un peu de temps de ça, ça m'a évoqué cette... Enfin, disons que la gravure de Jean-Luc m'a évoqué les images que j'ai vues d'Alep à la télé. Et je ne pouvais pas faire autrement que d'écrire ce texte.
On l'écoute. C'était Alep. Alors, Gérard, ce poème a une nous avons vu de l'incidence qu'elle a eue, mais tu peux nous reparler de ce voyage mémorable.
Ce poème, il a une histoire. Vous savez, quand on traverse une culture qui n'est pas, qui est extrêmement différente et puis qui ne repose pas sur les mêmes valeurs que les valeurs européennes. Ce qui interroge, c'est le sens de ce que nous sommes, où nous sommes, au moment où nous y sommes. Et je me rappelle, j'avais chanté les troubadours avec mes amis musiciens dans le théâtre d'Alep, qui est tout en bois, qui ressemblait à un œuf. Et il y avait là le chanteur des muezzines. Quand un chanteur devient muezzine, il n'a plus le droit de se produire en public. Et moi, après le concert, je lui ai rendu hommage. Et chose extraordinaire, c'est qu'il s'est levé, il est venu vers nous, il s'est installé sur la scène, il s'est mis à côté de moi, il m'a pris par les épaules, et il a commencé à chanter. Et on s'est regardé et nous avons chanté ensemble. Et c'était, je voyais en coulisses que le consul me faisait des gros yeux parce qu'il avait peur d'un incident diplomatique, parce que ça ne se fait pas du tout. Oui. Mais en fait, ça a été un moment fabuleux, quoi. Et on ne peut... C'est quelque chose qu'on peut vivre peut-être une fois dans sa vie, mais c'est quelque chose qu'on n'oublie plus. Oui. C'est-à-dire que tout s'est passé très cordialement, très gentiment. Tout le monde a applaudi, tout le monde était très content, et puis voilà mon consul qui me regardait en faisant un bravo, en acquiesçant. Et ça, c'était ça. C'est la magie de cette ville qui était une ville vraiment de l'accueil, de la convivialité, enfin bref, tout ce qui disparaît tous les jours de plus en plus. Voilà l'histoire d'Alep. Oui, oui. Ce qui nous relie d'ailleurs au texte suivant de la Haute Terre, que...
Une ville qui a été confrontée à la barbarie quand même, ensuite.
Voilà, alors c'est une ville qui a été confrontée à la barbarie absolue.
Oui.
Et puis, ben, voilà, là, qui dit barbarie dit exil, qui dit exil dit on va le plus loin possible, qui dit on va essayer de s'en marquer, etc. Et ça nous relie au texte qui suit dans la foulée que j'avais écrit à la même époque, et où toujours Jean-Luc Sévérac à la gravure correspondante.
On l'écoute.
Over.
Nous allons peut-être terminer sur ce CD Clamor par un texte. Non, c'est pas sur Clamor, c'est sur Occitanie. Voilà. Donc c'est un autre CD de Gérard Zucchetto, Occitanie. Un texte sur le catharisme. Donc on ne peut pas parler de Jean-Luc Sévérac, donc de Minerve, sans évoquer bien sûr le catharisme, surtout dans cette période des troubadours.
Alors avec Jean-Luc, quand nous parlions du catharisme à Minerve, nous avons parlé bien sûr de tous les sujets qui y sont liés, à commencer par les touristes illuminés qui viennent et qui s'interrogent, et à la fois par les reconstitutions pseudo-historiques, etc. Et moi, j'avais traité le sujet de façon, je parlais de médiévalisme tout à l'heure, de façon troubadouresque, en jouant sur les jeux de mots, mais de celui qui se pose la question de savoir s'il est ou s'il n'est pas cathare, finalement. Parce que, quelque part, ça m'est égal. Il fait ce qu'il veut, il est ce qu'il est. Mais, comme sujet d'inspiration, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut s'interroger sur des choses qui n'existent peut-être pas. Et c'est ça qui est le plus intéressant. D'ailleurs, tout le monde sait qu'on s'interroge beaucoup sur des choses qui n'existent pas, et pas assez sur les choses qui existent. Mais ça, c'est un peu habituel. Et en même temps, j'ai fait comme Rimbaud d'Orange, et j'ai essayé de trouver des mots qui sont des jeux de mots. Par exemple, j'ai écrit « Tedudits dudam ». Alors, ça ressemble à Tadadilani, oui, tu vois. Mais en fait, j'ai écrit Tedudizudam e meraveyote, Tedudizudam e recce. Si l'homme est meilleur que l'oubé, d'il nous monde del mal que l'outé, que me disun dieu. Tedudizudam e meraveyote, e recce. Si l'oubé est meilleur que l'oumal, d'il nous monde, que l'homme est bancal, que me disun dieu. C'est un jeu. Alors, mais sans sens. Je te donne des mots, je te donne des soucis. Alors étonne-toi, je te donne des mots, je te donne des soucis hérétiques. Si l'homme est meilleur que le bien, dans le monde du mal qui le tient, que me dit son Dieu? Je te donne des mots, je te donne des soucis, alors étonne-toi. Si le bien mieux que le mal dans le monde des hommes est bancal, que me dit son Dieu, etc. Mais l'amour est plus que le Dieu Qatar et le Dieu meilleur que moi, mais l'amour plus que le Dieu Qatar et le Dieu Qatar est son Dieu. Je te donne des mots, je te donne des soucis, alors étonne-moi si l'hérétique inverse le monde, que le monde Qatar est le mien, que me dit son Dieu, qui inverse, etc. Donc c'est un jeu de mots, et nous avions enregistré ça à l'époque avec pour le disque Occitania, et c'est Jean Falissard qui chante.
Alors ça, c'est vraiment l'inspiration troubadouresque totale.
Non, on peut dire ça, parce que il y a un décalage entre le propos, oui, qui pourrait paraître sérieux, oui, et la façon dont il est traité, qui s'appuie que sur un jeu formel.
Oui. On l'écoute.
Si lo beme
en même temps, on l'a vu, c'est, ça paraît très moderne aussi.
Je crois que les jeux sur les mots en poésie, c'était déjà ce qu'on appelle le moderne aujourd'hui, mais c'était déjà en place, c'était une tournure d'esprit extrêmement complexe, mathématique aussi, des Rimbaud d'Orange. C'est-à-dire, on pense pas forcément à faire de la rime, de la métrique, mais plutôt à jouer de façon, sur ce registre-là, plus complexe. Bien sûr, les occitanophones, occitanistes, auront compris que c'est fait exprès que le chanteur dise « Deu » et non pas « Dieu ». Parce que c'est justement cette ambivalence qui indique plus que « Diaou », qui est plus familier, oui, mais quelque chose qui peut prêter à confusion, justement. C'est un jeu dont je renvoie à la philologie.
Alors, il y a un groupe, par exemple, on fait une petite aparté, à Marseille, Massilia
Sound System.
Voilà, Sound System. Voilà. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont repris aussi des formes absolument troubadouresques, hein, qu'ils ont adaptées. Eux avaient des rythmes qui sont des rythmes de musique contemporaine, hein, mais ils étaient dans le troubard vraiment.
Oui, bon, mais le Massilia, comme beaucoup d'autres, hein, oui, moi-même je l'ai fait, bien sûr.
Oui,
hein,
oui. Mais il se revendique ouvertement
oui, non,
de la descendance troubadour.
Oui, non, mais après, bon, ça c'est autre chose, c'est la communication. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que il est très difficile, finalement, d'échapper à des formes qui ont été écrites dans ces 12e et 13e siècles, parce que les troubadours ont écrit et parce qu'ils les ont inventés, ils ont écrit dans toutes les formes. Que ce soit ce qui s'apparenterait au slam, au rap, oui, ils ont déjà tout fait. L'octosyllabe de Lamartine, ils connaissent par cœur, oui, etc. Oui. Les alexandrins aussi. Donc c'est très difficile d'inventer, après les troubadours, oui, en langue occitane. Après, tout le reste, encore une fois, je pense que c'est une affaire de s'approprier et de créer par-dessus ce que je fais, par exemple, avec le texte, oui, qu'on vient d'écouter, oui, oui. Ou par exemple dans celui-ci, oui, là, de Rimbaud, enfin pas de Rimbaud, vous voyez, moi-même à la Rimbaud d'Orange, oui, où j'écris, où donc je m'interroge sur le troubard, et en même temps c'est bien parce que c'est en correspondance avec une sculpture de Jean-Luc Sèverac qu'il a gravée. Il a fait une sculpture en amassant des pierres, mais à partir de ça, il a fait une gravure. Donc, où il s'interrogeait justement sur le sens de la sculpture. Et moi, je me suis interrogé, pareil, sur ce sens-là. J'ai écrit « Aturba l'utruba, trouvant des moutes sans idées, et d'idées sans moutes, immersant las flous et florissant nos berces, fin final aturba des moutes traucat et traucat, des moutes troubantes. A troublé le trouba, trouvant des mots sans idées et des idées sans mots, inversant les fleurs et florissant les vers, à la fin il a trouvé des mots troués et troué des mots troublés. » Donc, il y a toujours une filiation quand on écrit qui est une filiation générée par ce qu'on a lu avant. Les Mutz Traukatz, par exemple, c'est une allusion à la poésie à une des poésies de Max Rouquette, que j'ai beaucoup fréquenté. Ouais. Et le jeu de Trouba et Tourba, ça c'est vraiment une allusion à Rimbaud d'Orange.
Alors on va écouter ça.
Per ritrovare Em purten tout ce que poudrem et es vremben pas de cerca ni a tant que nous en amagat et l'eu escafat ou cremat. Totes les mots qu'on a trobat et tornem a prendre a nous dire mots reire vieilles et mots nouvelles. Anem totes a l'académie recobrar les nostres memòries enfuciados dins de certesos de diccionaris embetunats.
Alors, vous avez entendu, allons tous à l'académie. Je ne sais pas pour ceux qui peuvent le regarder sur en vidéo. Donc, on voit des académiciens, apparemment, qui s'apprêtent à rentrer dans, non pas dans le moule, mais dans une coquille. Hein. Voilà, donc l'image est très parlante. Le symbole du coquillage est très...
De la spirale.
De la spirale,
on ne ressort pas.
Voilà. Alors, tu vas nous dire deux mots sur ce texte.
Alors, je vais dire deux mots aussi sur le fait que Jean-Luc Séverac, qui a eu une formation classique aux Beaux-Arts, a toujours refusé le moule. Et il a toujours refusé, justement, l'Académie. Et il est allé chercher, sur le cos de Minerve, les éléments naturels pour développer son art. Et quand j'ai vu cette gravure, moi, ça m'a fait vraiment penser... Parce qu'il ne m'a pas dit qu'ils allaient à l'Académie, là. Lui, il m'a dit, ils vont dans un endroit dont...
Ah oui.
D'où il n'y a pas d'issue.
Oui, oui.
Et c'est pour ça que j'ai écrit ce texte sur l'Académie, parce que...
Oui.
Dans une académie, il y a des choses. D'abord, il y a des dictionnaires, comme j'écris, qui sont embétonnés, qui sont bétonnés. Même si aujourd'hui on y fait rentrer des mots comme yel, puisque c'est le mot à la mode, où on y fait rentrer des mots nouveaux, mais qui ne sont pas si nouveaux que ça finalement.
Oui. Il faut des années avant que ça rentre.
Voilà.
Généralement. Hein.
Exactement. Oui. Donc. Une académie ne représente souvent qu'elle-même. Mais par contre, elle a des trésors. Oui. Et ces trésors sont gardés, conservés, cachés même, quand ils n'ont pas été détruits. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la langue occitane. Ça veut dire qu'ont fait les troubadours, finalement, au XIIe et XIIIe siècle, en inventant un langage de la poésie extrêmement... pertinents, qu'ils ont consigné à travers une coïnée dans les manuscrits médiévaux, ils n'ont fait que constitué le grand dictionnaire moderne de la poésie. C'est ça, le Troubard. C'est le grand dictionnaire moderne de la poésie. Toujours pas dépassé. À partir de là, ou bien on va dans cette académie, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la poésie des troubadours, et on va chercher ces mots anciens, qui semblent anciens, mais qui sont importants pour la compréhension, pas simplement pour le jeu poétique, mais aussi pour ce qu'ils disent, ou bien on se contente d'utiliser que des mots usuels, un langage simplifié. C'est le problème qui est posé dans ce poème chanté, dans cette chanson pour le coup, que pose aussi l'artiste Séverac avec ces personnes qui rentrent dans un endroit qui est une coquille d'escargot dont on ne sort pas.
Et en même temps, comme tu l'as dit, c'est l'endroit aussi où sera conservée les mémoires.
Et voilà, il y a ces deux choses. Oui, c'est un peu comme l'Académie des Jours Floraux.
Oui.
Ça veut dire.
Oui, mainteneur, c'est
voilà, ça. Voilà, on pourrait très bien vivre sans l'Académie des Jours Floraux. Oui. Mais il serait difficile de passer à côté, parce que nous utilisons tous les jours des expressions qui ont été déjà consignées par eux.
Et de toute façon, les artistes, au bout d'un moment, quelle que soit l'originalité de leur création, finiront par devenir des artistes classiques et s'inscriront également dans un académisme. Feront partie, fatalement, à un moment donné, d'un académisme, je crois.
Peut-être c'était vrai avant. Aujourd'hui, où l'écriture a de moins en moins d'importance et où les choses ne sont consignés que sur des supports volatiles, les SMS et les books, etc. On n'est plus là-dedans, mais ce n'est pas le problème. Ce que je note, c'est que cette vieille Europe qui avait une tradition de l'écrit, une culture écrite incroyable, quand on regarde tous les chansonniers médiévaux, toutes les compilations de poésie, depuis les troubadours jusqu'à Dante Alighieri et Francesco Petrarque. Et aujourd'hui, finalement, bien sûr, il y a beaucoup de publications, mais il y a des publications périssables, tous les jours, et de plus en plus. L'écriture n'est plus un symbole.
L'écriture n'est plus un symbole, bon, je crois qu'il faudra revenir sur cette assertion pour ne pas désespérer. En tout cas, un très beau livre, Jean-Luc Séverac et Gérard Zucchetto, Entals Gravure, les poèmes Entre lac et chanson. Et nous finissons sur la dernière chanson, donc... Se perdre dans son et d'insun belesgar.
Se perdre d'insun belesgar, se perdre dans son beau regard, parce que l'amour finalement est tant la chose la plus importante au monde, autant se perdre, tant qu'à se perdre.
Alors l'amour courtois
dans un beau regard.
L'amour courtois qui conclut cette émission. Merci beaucoup Gérard.
Nous écoutons
Sandra.
Merci.
Et cerca son.